Welcome to an interview. It's Nancy Peroso, and I'm sitting at the in the new Mariner Water Garden building in Thunder Bay, interviewing Stéphane Turgeon, who is visiting us from Quebec City. And this interview is going to be a little unusual. Oh, the date is May 31st, 2012, in that I'm going to ask the questions in English. I do not want to have history record my bad French, but Stéphane is going to answer in French. This is a companion interview to the interview that we did in Quebec City probably about a year ago now, maybe even over a year ago. So thank you very much for agreeing to this.
You're welcome.
I'll ask you to start by introducing yourself and telling us how you became involved in the grain business. En français. Okay.
C'est bien. Okay. Mon nom est Stéphane Turgeon. J'ai 50 ans. Je suis né en 1962 à Saint-Hyacinthe, qui est 30 km en dehors de Montréal. Pour ce qui en est de l'industrie du grain, j'ai parti de Québec à l'âge de 18 ans à cause de mon anglais. Je ne l'avais pas, alors il a fallu que je parte sur où est-ce qu'il parle, alors en dehors du Québec. Alors je me suis ramassé en Saskatchewan, à Prince-Albert. J'ai travaillé 3 mois sur une ferme et j'ai rencontré un copain de Thunder Bay qui m'a invité ici pour travailler dans un élevateur à grains. Alors, j'ai accepté son offre et je me suis envenu ici en 1981 et je me suis installé à Port-Arthur. Et la compagnie pour qui j'ai travaillé à ce moment-là s'appelait United Grain Growers. Et j'ai travaillé pour eux autres pour 26 ans et demi.
When you first came to Thunder Bay then and went to the elevators or started in the elevators, was there anything that surprised you about the elevators? Had you some preconceived notions of what it would be like versus what it turned out to be?
Je crois que au départ, j'ai trouvé que l'environnement était sale. Il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de grains à terre. Mais par contre, le monde était très gentil. J'avais un manque d'anglais, alors je ne pouvais pas communiquer avec comme tous les autres qui travaillaient là. Mais il y avait des Italiens, des Finlandais, des Ukrainiens. Alors je me sentais accepté d'un côté. Parce qu'on était tous des immigrants qui viennent s'installer ici à Thunder Bay pour travailler. Mais sur l'aspect de l'élévateur même, j'ai trouvé que c'était gros, très gros. Très, très gros, puis il y a beaucoup à nettoyer. Mais il faut que ça soit nettoyé. Mon premier emploi que j'ai eu là-bas, c'était quand n'importe qui commence, il faut qu'ils connaissent le plan. Alors, tu fais de l'entretien de la bâtisse. Passe le balai, les mops, pelleter le grain qui est à terre, tu le remets sur les courroies, parce que ça s'en va dans les silos. Parce qu'il n'y a pas de perte. Dans le grain, il n'y a aucune perte. Tout se vend. Il se débarrasse de tout, même la poussière. Puis au fil des années, ben, j'ai monté de rang. Puis j'ai bien aimé travailler dans le car shed. Le car shed, en français, je ne saurais pas trop comment le dire. C'est là où on vide les wagons. C'est l'endroit où on vide les wagons. Alors, c'est pas un entrepôt. C'est juste une place avec un chemin de fer et on rouvre les wagons par en dessous. Il y a d'autres élévateurs, mais il y avait des boxcars qu'on appelle. Encore là, je ne sais pas le mot en français. Et il fallait les bouger de haut en bas pour les vider. Alors, c'était mon premier gros emploi que j'avais là-bas, c'était de travailler dans le car shed. Et j'ai bien aimé le car shed.
The car shed, and you were talking about the dumper cars.
Yes.
So you started then before hopper cars came into being?
Oui. Oui, j'ai commencé à peu près 2 ou 3 ans avant que les Hoppercar viennent. D'un coup que les Hoppercar sont venus, ben, il y a eu une diminution d'employés parce que l'électronique est arrivée. Ça a coupé beaucoup d'emplois. Mais j'étais chanceux. Ils m'ont gardé. J'étais le dernier sur la liste de la compagnie pour plusieurs années avant qu'ils emploient encore. Puis, j'ai pas pu monter. Vu que j'étais le dernier, j'ai pas pu monter plus haut pendant des années et des années, jusqu'à 3 ans avant que je parte de là, que je suis devenu un inspecteur de grains de maison. Puis, je m'en suis servi maintenant pour ce que je fais dans la vie à Québec, pour le gouvernement du Canada.
Now, when we had our... you talked, and excuse me if I misinterpret what you're saying, but you were talking about the introduction of computers, the introduction of hopper cars, resulting in a reduction of staff. During your time, did you work for the same company all the time, or was there a change in companies as well?
Après l'automatisation des années 80, on a acheté la compagnie pour United Grain Growers a mergé avec Alberta Pool. Alberta et Manitoba. Si je crois bien, il y a eu deux achats côte à côte. Puis on a mergé puis on s'est formé pour le changer le nom pour Agricor United. Et en 2007, on s'est fait acheter par une compagnie, SAS Wheatpool. Et on a changé le nom encore pour Viterra. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis parti. Je savais que mon emploi allait être diminué encore beaucoup plus. Et j'avais une chance de faire quelque chose dans la vie que je voulais faire, un inspecteur de maison.
It must have been a tough time. During the, what they started calling downsizing.
Automatization.
Automatization, the changing of one company buying out another company. What kind of impact did that have on the workers? Any?
Ah oui. On a perdu beaucoup, beaucoup d'emplois. Il y était un moment, on était 2000 employés pour le grain. À travers tous les élévateurs de Thunder Bay. On est tombé à 1000, à 800, 600. Maintenant, ils sont juste 200 à travailler ici. Alors, les années 80 ont été pénibles. Le début des années 90 aussi, on avait perdu le gros contrat avec la Russie, parce que la Russie est devenue quasiment banqueroute. Oui, c'était dur. C'était dur de voir tous tes amis et ton temps diminuer de 45 semaines par année à 20 semaines. Puis il y a eu des années même qu'il fallait se trouver un autre emploi ailleurs. Parce qu'il n'y avait plus rien ici.
Were people expecting what happened?
Quelques-uns le prédisaient, mais la plupart du monde, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi sévère que c'est devenu. C'est devenu très sévère au fil. La fin des années 80 et début 90, je crois pour moi, c'était les plus dures années à Thunder Bay. L'automatisation, ce n'est pas juste fait dans le domaine du grain. Ça s'est fait aussi à travers tous les autres domaines. Alors, c'était dur de se trouver quelque chose de bien pour travailler avec un bon salaire et tout. Et la plupart du monde avec qui je travaillais, ils aiment travailler dans les élévateurs à grains. Ils aiment ça. Je dirais que c'est plaisant. Il y a toutes sortes d'emplois dans les élévateurs à grains. Il n'y a pas juste nettoyer la bâtisse. Il y a le gradage du grain, le nettoyage du grain pour le vendre. Il y a l'ensilage du grain. Il y a travailler dans les sous-sols pour l'eau de remplir les bateaux. Il y a ça, c'est juste pour nommer quelques emplois là-bas. Mais la distribution du grain aussi qui se fait à travers les tuyaux qu'on se sert pour mettre pour ensiler le grain. Puis aussi, il y avait pour moi, la chose qui était différente, il y avait plusieurs personnes qui venaient de l'extérieur du Canada, comme je vous ai dit auparavant, les Italiens, les Finlandais, les Ukrainiens, il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Alors c'était un moyen de comprendre aussi les autres gens de d'autres pays qui ont passé à travers des difficultés aussi pour venir travailler ici ou pour venir s'installer au Canada. Mais puis la plupart du monde qui était plus vieux que moi, ben, il y avait plus de connaissances comment que les élevateurs ont été construits à Thunder Bay. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé très fort de leur soir pour monter ces élevateurs-là, pour les construire. Il y en a qui sont morts même au fil des années. Puis quand je suis arrivé, il y en avait 15 élévateurs. Maintenant, il y en a à peu près, je dirais, 6 ou 7. Puis c'est à peu près tout pour ça.
Were people talking about what caused the change? Not so much the change in automation, because computers came into their own, and a lot of people lost their jobs as a result. But the number of shipments, the amount of grain shipped out of Thunder Bay also changed. What were people working in the elevators talking about as that change happened?
Bien, je crois que dans les années 80, quand je suis rentré ici, quand j'ai commencé à travailler pour United Grain Growers, on exportait à travers le port à peu près 17 millions de grains par année, 17 millions de tonnes de grains par année. Au fil des années, ça a baissé à 14, 13, jusqu'à à peu près 86, 87. Puis à partir de ce moment-là, le gouvernement. À partir de ce gouvernement-là, à partir de ce moment-là, le gouvernement a décidé d'envoyer le grain l'hiver, quand le lac gèle ici, envoyer le grain dans les deux côtes du Canada, dont l'Est et l'Ouest, sur Vancouver et Québec. Je crois énormément que c'est petit à petit, mais à partir de 86-87 à peu près, qu'ils ont commencé à faire ça. Alors, ça a diminué. On loadait moins de. On remplissait moins de wagons l'hiver pour les envoyer dans ces deux places-là parce qu'ils prenaient de l'Ouest et ils les envoyaient directement par là au lieu de les remplir à Thunder Bay. Mais ils en faisaient encore à Thunder Bay dans les années 80. On en remplissait encore. Il y avait encore un programme pour l'hiver, pour les employés. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il y en a plusieurs qui l'ont fait à cause qu'il y avait l'ancienneté. Mais juste pour vous dire que. Il faisait froid à l'hiver. Remplir des wagons, être debout pendant toute la journée au-dessus d'un wagon, puis en remplir un après l'autre, ben alors j'ai manqué d'ouvrage, mais ça me dérange pas. Mais pour continuer, c'est à partir, je pense, des années 92, 93, 94, que je pense que le programme a tombé complètement. Là, on n'en faisait plus. On ne remplissait plus de wagons l'hiver. Je peux me tromper dans les dates. Mais d'après moi, d'après ce que je pense, c'est ça. C'est 95 maximum, on faisait plus de. On n'en remplissait plus. Ça se passe. Ça partait de l'Ouest, ça s'en allait à Vancouver ou à Québec. Puis on travaillait ici du printemps au début de l'hiver, janvier.
Changes in markets, too?
Oui, le market a changé. La Russie nous a laissé tomber dans les années 90 à cause de leurs propres problèmes d'argent ou économie. Et il a fallu trouver d'autres acheteurs, dont la Chine. Mais la Chine, c'est pour ça que Vancouver va très bien. La Chine, sont beaucoup de monde qui reste là. Alors, ils achètent beaucoup de notre grain. Et je crois que l'Est ont eu leur part aussi, puis ça continue à grimper assez rapidement. Le nord de l'Afrique, c'est les gros acheteurs qu'on fait affaire dans l'Est. Aussi, il y a l'Europe qui en vend un peu de grains là aussi. Puis le sud de l'Amérique. Alors, le sud de l'Amérique, l'Europe et le nord de l'Afrique font affaire avec l'Est du Canada. Et la Chine, le Japon et tous les pays qui sont plus proches par là, ben, de Vancouver d'un fonds à faire avec les élévateurs de Colombie-Britannique.
And elevator development out on the West Coast as well. Like here, they were closing down elevators, and there they were.
They were in Colombie-Britannique, dans les années 86, ils ont construit plusieurs élévateurs. Vu que Thunder Bay, les élévateurs commençaient à décliner, ben il fallait en construire d'autres dans les extrémités du Canada. Alors, l'Est a construit. L'Est, je pense que la dernière qui a été construite dans l'Est, je pense que c'était à Montréal en 1977, pour l'Expo de Montréal. Mais Vancouver, par exemple, vu que c'était là le plus gros acheteur du Canada de grains, dont c'est la Chine, il fallait en construire des nouvelles là-bas. Alors, oui, pour répondre à votre question, oui, ils ont construit, je pense, deux ou trois gros élévateurs dans l'Ouest. Et ça l'a affecté beaucoup les employés ici. Mm-hmm. Alors, dernièrement, j'ai entendu qu'on fait à peu près 3,5 millions à 5 millions par année à Thunder Bay. Tout dépend des années.
6
exportations?
6 millions. Oui.
6 millions?
L'année dernière.
OK. 6 millions l'année dernière, bien, c'est bien, parce que ça a monté. Parce que l'année d'avant, où c'était, je pense, 5 millions, puis l'année d'avant ça, je pense que c'était 4,5. Mais disons 5 millions en moyenne dans les 4 ou 5 dernières années. C'est peu comparé à le 17 qu'on faisait auparavant. Puis maintenant, ils sont encore plus vite pour vider les wagons qui arrivent. C'est plus comme c'était avant. Alors, 5 millions, c'est pas beaucoup. Mm-hmm. Même 6 millions, c'est pas beaucoup. Pour ce qui en est du futur, ça, c'est pas à moi de décider.
Mais, when you talk about how quickly things move and correct me if my interpretation is incorrect, which it is quite likely to be, and just going back a little bit to the grain cars. So when you were working in the car sheds and unloading box cars, do you recall how many box cars you could unload in a day versus how many could be unloaded once they switched to hopper cars?
Okay. Premièrement, il faut comprendre que dans un box car, il y avait en moyenne 45 tonnes de grains. Dans un wagon qui sont ronds, les hopper cars qu'on appelle, il y a 90 tonnes, alors deux fois plus. Puis tes roues, si on fait la différence encore entre le boxcar et le hopper car, le boxcar, on avait deux portes à ouvrir, une en arrière et une à l'avant. On rentrait avec, tout dépendait du système que l'élévateur avait. Il y en avait que c'était kind of, but I'll just
okay.
That's okay. You could start. Okay. Dans un wagon de un boxcar encore, on avait deux portes, une en arrière, une à l'avant. Et tout dépend du système de l'élévateur. Nous autres, la compagnie United Grain Growers, on se servait d'un bobcat pour vider les boxcars. On ne se servait pas d'un dumper. McCabe Elevator, qui était l'élévateur pour qui j'ai commencé à l'intercité, c'est une des raisons pourquoi j'aimais le car shed, parce que je pouvais conduire un petit tracteur, puis j'allais vider les wagons. Ça prenait en moyenne à peu près 20 minutes pour vider, 15 à 20 minutes pour vider un quand tu devenais très bon, ça prenait 15 à 20 minutes pour vider un boxcar. Puis comparé pour un upper car, ça prend à peu près 10 minutes à peu près pour le vider. Alors, on était quand même assez efficient. On était quand même... je dirais bon. On était bon. Puis, au fil des années, ben là, ils ont éliminé les boxcars. Puis, les upper cars sont arrivés à pleine force.
Were all of the elevators that you worked in, were they using winches to pull in the cars, or did they have other systems for?
Moi, tout ce que j'ai connu dans mon 26 ans et demi de travailler pour les élévateurs, c'est le winch, les câbles. J'ai même perdu un petit morceau de mon pouce pour en prenant un câble puis un boxcar. Mais ça, c'est pas grave, c'est juste un petit morceau. Mais j'ai vu de mes yeux, à cause que les autres compagnies à côté, il y avait un genre de caboose pour pousser les trains, pour les amener dans la bâtisse et pour les sortir. Nous autres, on servait d'un amortisseur, une personne qui arrêtait les wagons. Un coup qui était vide, mais on en prenait cinq à la fois, puis on les envoyait en dehors de l'élévateur, ou un à la fois à l'autre élévateur, à Kent River. Mais il fallait les arrêter parce qu'il y avait du monde du gouvernement qui travaillait sur les tracks. Alors, c'est ça, on servait des câbles pour répondre à votre question. Nous autres, c'était les câbles, les winches, les câbles.
You spoke about a small accident that you had. Were there accidents happening during your 20 plus years that you recall?
Oui, des accidents, ça va toujours arriver. Peu importe le niveau de sécurité on peut mettre, ça reste quand même, c'est un élévateur à grain. Il y a des choses, le monde dit tout, on ne devrait pas avoir d'accident. Non, ils ont raison, on ne devrait pas en avoir. On est des êtres humains. Des fois, mais on ne regarde pas toujours autour de nous. Alors, où on devient fatigué, où on devient stressé, où on devient. Puis dans le temps, ben, le monde, des années 80, ben, ça buvait un petit peu. Mais moi, pour parler de mon accident, moi, il y avait aucun, c'était pas une question de boire, c'était juste avant c'était de minuit à 8 h du matin. Alors, je crois que c'était le pire chiffre. Travailler de nuit, c'était pas le. Travailler de nuit, ben, le monde dort la nuit, il travaille pas. Fait que quand tu travaillais la nuit, ben, tu t'endormais des fois, puis on est moins alerte. Alors, moi, je dis que mon accident, c'est parce qu'on était. Le winchman et moi, nous étions pas sur le même niveau d'âme. Parce que ça aurait pu pas se produire, disons. Mais je vais vivre avec.
Things have changed there too. Safety is much more seriously taken. Drinking is, which we heard of a lot about from other people that we spoke to, older than you who started earlier than you. Drinking was a real problem, not just in elevators, but I think in a lot of workplaces at the time. So things changed in the safety and concern with safety over the years that you worked there?
Oh, le safety, je crois que petit à petit, après que j'ai commencé à travailler, ça a commencé à changer. Mais où est-ce que c'est devenu très sévère? Je pense que c'est dans les années 90. À partir des années 90, fin des années 80, début des années 90, quand il y a eu l'automatisation, je pense que c'est là que le monde s'est vraiment réveillé puis qu'ils ont apporté la sécurité de plus en plus, les cadenas pour les courroies, barrer les courroies avant d'aller balayer autour ou travailler autour. Je crois que barrer, c'était l'une des meilleures solutions parce que personne peut. Quelqu'un qui travaille dans une salle de contrôle, c'est facile de peser un bouton. La personne qui nettoie, peut-être que lui, il ne sait pas qui est là. Peut-être que le contremaître lui a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait autour. Alors oui, je crois que ça l'a coupé beaucoup de la sécurité a coupé beaucoup ça l'a empêché beaucoup le monde de se blesser. Mais juste pour donner un exemple, il y a quelqu'un qui montait une échelle, il est tombé, s'est fracturé le dos. Il travaillait plus pour à peu près 2 ou 3 ans. Alors, que tu aies n'importe quelle sécurité, à moins d'avoir un. En montant l'échelle, tu ne peux pas avoir un harnais. Ou je ne sais pas s'il y a un moyen d'avoir un harnais en montant une échelle. De l'enlever puis de le remettre à chaque échelon de l'échelle que tu as. Mais je crois qu'il va toujours avoir des.
All right.
When I start babbling, give me a second.
Well, at least it's not crackling cookies and things.
Oui, monter des échelles, c'est dangereux. Ou même, je dirais, nettoyer les silos. Nettoyer les silos aussi, c'était dangereux. Mais pas dangereux dans le sens que on va tomber, mais dangereux dans le sens que tout dépendait de la personne qui nettoyait le silo, mm-hmm. si elle était courageuse ou pas.
Now, I remember what you were saying before we put the pause on, and that was you were talking about a fellow who broke his back.
Yeah. Il s'est cassé le dos en montant une échelle et est tombé à peu près de 15 à 20 pieds sur son dos. Il s'est fracturé le dos. Mais au fil des années, il y a eu plusieurs accidents qui auraient pu être empêchés d'arriver. Mais ils sont arrivés et la sécurité a doublé, triplé, quadruplé même, je dirais. Maintenant, tout est barré. Mais je dis qu'il va toujours en avoir. Encore, vous êtes venu à Québec l'année passée. Et depuis que vous êtes parti, il y a eu deux gros accidents. Une à Trois-Rivières. Il y a un contracteur qui avait déjà fait à peu près 20 ans de construction d'un élévateur d'expérience. Il est tombé dans un silo vide. Alors, il est mort. L'autre s'est passé à Bangui. Je n'élaborerai pas plus que ça parce qu'ils sont encore en train de parler de cet événement-là. Mais il s'est coincé entre la courroie et un rouleau. Je ne veux pas aller plus loin pour cet accident-là. Mais les accidents, ils vont toujours en avoir dans n'importe quel domaine qu'on va faire parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfaits.
Now, you had started to talk about your specialty, which was cleaning silos. Now, I remember this from your English interview, and I'd like you to describe the condition that occurs that you had to work with. Also, how you went about doing that and how you developed your expertise in that area, and why you didn't think this was such a bad job after all, when other people we've spoken to would not necessarily agree with you. So.
OK. Bon. Quand j'ai commencé en 1981, j'avais un handicap comparé aux autres. Je ne pouvais pas avoir de radio parce que je n'avais pas l'anglais. Alors, mon travail consistait à beaucoup de balayage, beaucoup d'entretien de la maison. La maison de la compagnie. J'appelle ça une maison, une house. Alors, il y a eu à un moment donné qu'il y a eu quelqu'un qui m'a invité à faire un travail qu'il savait que j'allais aimer. Parce que j'étais. Quand je suis parti de Québec, mon premier but était de devenir cascadeur. Cascadeur, c'est un stuntman. Ça, alors, j'ai pas de frayeur, moi. Je suis quelqu'un qui fonce assez. Des fois, ça peut être stupide. Des fois, ça peut être courageux.
The thought crossed my mind.
Des fois, ça peut être courageux. Mais en tout cas, il fallait quelqu'un qui le fasse. Puis, les personnes qui étaient là avant moi, qui faisaient ces jobs-là, ce travail-là, ils vieillissaient. Alors, à un moment donné, quand tu fais ça pendant 10, 15, 20 ans, les poumons, à un moment donné, les yeux, les poumons, ils viennent endommager beaucoup. Alors, on passe le fléau à quelqu'un d'autre. Danny Savala est un travailleur à United Grain Growers qui m'a montré à nettoyer les silos. La première fois que je suis descendu dans un silo, j'avais pas peur, mais disons que j'avais des papillons dans l'estomac. Et dans le ventre, et les frissons. Mais petit à petit, j'ai appris comment les nettoyer. Puis chaque individu, à un moment donné, il apprend à connaître son métier assez bien que des fois, il prend plusieurs petites chances qu'il ne devrait peut-être pas prendre. Moi, je dis que c'est ma spécialité parce que je descendais plus bas que la plupart du monde. Puis j'aimais ça quand ça tombait sur moi. Je sais pas, je suis différent là-dessus des autres. Mais pour en revenir, par exemple, à la logique de nettoyer un silo de grain, on pouvait pas le remplir s'il y avait une autre sorte de grain ou de trop de poussière qui était collée dans le silo. Alors, il fallait trouver un moyen de le, la compagnie, il fallait qu'il trouve un moyen de le nettoyer. Vu que nos emplois étaient déjà affectés par la, l'automatisation, on ne voulait pas en perdre plus d'emplois. Alors, on ne voulait pas qu'il aille chercher une compagnie de l'extérieur qui vienne nettoyer ces silos-là. Tout ce qui faisait partie de la maison, on voulait le faire nous-mêmes. On était des employés de la compagnie, on pouvait apprendre, puis on pouvait le faire. Alors, moi, j'ai donné mon nom pour le faire, puis je ne voulais pas que d'autres le fassent. C'était ma job. Je voulais, c'était mon travail que j'aimais faire. J'aimais beaucoup nettoyer les silos. Même, ça me manque en ce moment.
And I understand, if my memory serves me, that you developed techniques that you worked better than others. So the first time you went down, you were doing things a little differently than when you became the l'expert.
Mais avant que je vais vous dire un petit peu l'équipement qu'on sert pour descendre dans un silo. Premièrement, on a des lunettes pour se protéger les yeux. On a des masques pour empêcher la poussière de rentrer. On a une salopette. On a une fourche, mais une fourche avec du plastique au bout. Mais moi, je me servais de l'autre fourche, elle qui n'avait pas de plastique. Moi, je savais qu'un étincelle de grain, un étincelle qu'on fait là-dedans. À moins que tous les gaz dans le silo étaient justes, ben, ça allait faire une explosion. Mais j'avais déjà vu les étincelles, que ça n'avait rien, c'était rien produit. Alors, j'aimais mieux travailler avec une bonne fourche de l'ancien temps qu'une fourche qui aime mieux en ce moment de se servir avec la sécurité qu'il y avait aujourd'hui. On avait un harnais pour ça. On avait une espèce de harnais qu'on se mettait autour du corps. Puis, c'est à peu près tout. On avait moi, j'ai enlevé mon casque parce qu'on n'était pas prêt à travailler avec la petite chaise qu'on était assis. Avait des barreaux au-dessus de notre tête, alors je ne pouvais pas mettre mon casque en même temps. Alors, on enlevait notre casque. Et il y avait trois personnes en haut qui étaient censées de regarder ce que moi, je faisais. On avait des radios aussi pour communiquer. Et ça, c'était dans mon temps, moi. Mais dans le temps avant moi, ça, je ne peux pas vous répondre comment ils nettoyaient les silos. Mais dans mon temps, c'était comme ça. Et les premières fois que je suis descendu, ben je n'ai pas resté longtemps dans les silos. Je suis honnête, j'ai pas resté longtemps. Mais j'ai appris vite à comment être bon. Moi, ce que je faisais, c'est qu'il y a toujours, dans un silo à nettoyer, il y a un trou au milieu. On descend dans ce trou-là. Tu peux descendre 4-5 pieds, puis après ça, commencer à faire des fissailles gauche et en face, puis en dessous pour le faire descendre. Moi, je trouvais que c'était trop long. Alors, je descendais 10 pieds, 12 pieds dans le petit trou. Puis là, je faisais mes fissailles. Alors, quand il y avait un gros morceau qui tombait, ben c'était un gros morceau. Puis, c'est de même que... en anglais, le terme, c'est « undermining ». Mais en français, miner en dessous. Mais... je dirais, là, mais je peux me tromper. Alors oui, je dis, il y a eu une année qu'ils m'ont appelé en février. J'ai nettoyé 30 jours consécutifs des silos de grains. Je pense que j'ai fait 100 voyages ce mois-là. Descendre, monter pendant tout le mois. Je crois que c'était dans la fin des années 80, début des années 90. À partir de ce moment-là, je crois que je suis devenu un des meilleurs. Mais le monde m'a dit que c'était pas moi le meilleur. Il y en avait d'autres des meilleurs. Mais peu importe, moi, j'ai bien aimé cette expérience de nettoyer les silos. Je l'aurais fait plus longtemps, mais disons que ma santé a diminué. Je pouvais plus les faire à la fin.
You had confirmed for us a story that we had heard. I find over time that the stories that you feel are unbelievable about some of the things that went on in elevators actually turned out not to be unbelievable and actually did happen. And the one that I would like you to speak about now, because we have it on the English version, was there was a story about a fellow who was trapped in one of the silos. Can you tell us more about that?
Well, premièrement, c'est le monde qui m'ont dit cette histoire parce que j'avais pas commencé à travailler dans ce temps-là. Alors, vous savez que les histoires deviennent, c'est une petite histoire, puis à un moment donné, bien, ça devient une grande histoire. Mais ce que moi, j'ai compris de cette histoire-là, c'est qu'il y a un groupe de quatre. Comme moi, il y avait un groupe de quatre quand une personne descend et trois en haut. C'est un vendredi dans la journée que un employé est descendu dans un silo. Il y avait trois personnes au-dessus pour s'occuper de lui. Quand le changement de corps est arrivé, les trois personnes en haut sont parties. Ils l'ont laissé tout seul dans le silo. Ils sont partis chez eux. Ils pensaient qu'il y avait une relève pour les remplacer. Mais dans ce temps-là, les années 70, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Le monde, il n'y avait pas de radio. Il y avait où les radios, je pense qu'on est arrivé un petit peu après. Il n'y a pas de radio, il n'y avait pas le... Alors le monde, vendredi, arrivait, puis ils partaient, ils pensaient qu'il y avait un autre chiffre, un autre corps qui arrivait. Alors ils l'ont laissé dans le silo. Et les heures ont passé. Cette personne est encore là. Sa femme a appelé le lendemain la compagnie pour savoir ce qui se passait avec son mari. Ce que moi j'ai compris de l'histoire, il est sorti le dimanche, alors deux jours plus tard.
And as a result, it was not a great experience to be left there.
Non, naturellement, rester deux jours attaché sur une chaise au milieu d'un silo à 50 pieds de haut. Non, je crois que c'était pas plaisant.
Mm-hmm.
Mais petit à petit, c'est le même que quand il se passe des choses de même, la sécurité monte après. Hein? Les compagnies de nos jours, si ça m'était arrivé à moi, ben, j'aurais pas pris ce qu'ils ont donné à ce monsieur-là. Ils ont donné un chèque pour une semaine. Moi, j'aurais demandé un petit peu plus. Deux jours attachés où j'aurais essayé de sortir de là de moi-même. Grimper ou peut-être que je serais mort. Je sais pas. Hein. Mais disons que c'est des choses qui se sont produites, mais les trois personnes en question, ils ont perdu leur emploi. Juste pour répondre à... C'était de leur faute. On ne laisse jamais... Les trois personnes qui sont en haut d'un silo sont responsables pour la personne qui est dans le silo pour nettoyer. Ils sont responsables de lui. Si, de nos jours, s'il a envoyé quelqu'un dans le silo, puis il n'y a plus de réponse à la radio, ils ne voient plus le câble bouger, ils sont censés de leur monter. Leur crainte de leur monter dans dehors du silo. On prend pas de chance comme ça. On n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui arrive. C'est pour ça qu'il y a des radios. Même si les radios sont défectueuses, on est censé de remonter ou de se faire envoyer une autre radio par en bas avec une corde ou quelque chose. Le monde préfère de ressortir, puis de reprendre une radio, puis de redescendre après. Mais ce que j'ai entendu au point de vue accident, puis de ces choses-là, il y en a de moins en moins. Des choses comiques, il y en a tout le temps. Arrêtez le train. Il y a quelqu'un qui se met le pied en dessous d'un wagon pour arrêter le train. Essayez de mettre une planche de bois pour arrêter un boxcar. Parce qu'il fallait les placer en face de chaque individu. Il y avait cinq arrêts à McCabe. Alors, quelqu'un qui vient pour mettre sa planche de bois, puis il se fait couper un doigt. Il y avait, ou un câble. Quelqu'un, un mécanicien qui est en train de fixer un câble pour tirer les wagons. Puis à un moment donné, sans savoir, il n'était pas barré, puis le winchman du Karched commence à wincher le wagon. Alors le pauvre type, ben, il s'est blessé sa main. Mais il y en a plus de choses. Ou je dirais plus parce que. Mais je dirais qu'il y en a très peu d'accidents maintenant comparé à avant. Alors la sécurité était là pour quelque chose. Moi, la seule chose que dans les silos que je ne portais pas, c'est les lunettes. Vu qu'on a le masque. En mettant les lunettes devenaient embuées. Alors, si tu veux voir ce qui se passe, parce qu'on ne voit pas tellement bien, d'un coup, quand on commence à travailler dans un silo, ça devient poussiéreux et on ne voit plus. On ne voit plus à deux pouces. Il faut laisser des fois, il faut se faire attendre que la poussière se descende pour continuer à travailler. Alors, moi, j'ai opté pour le masque et non pour protéger mes poumons et non pour mes yeux. Alors, c'était ça, un ou l'autre. On a essayé, au fil des années, beaucoup de lunettes, mais je crois qu'il n'y en a pas encore une compagnie qui est arrivée avec quelque chose de
Marche bien.
qui fonctionne bien, oui. Excepté que si on descend avec l'oxygène, avec le masque d'oxygène au complet. Mais il y a des silos qui n'ont pas besoin d'avoir d'oxygène. Il y a à peu près 5 à 10 tonnes à enlever de là. 5 à 10 tonnes, pour comme exemple, ce n'est pas beaucoup. Un screening bin, c'est ce qui est la poussière du grain. Ça, il peut avoir jusqu'à 60 tonnes à nettoyer. Puis ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrage. Et même, c'est poussiéreux. C'est une des sortes de silos qui est le plus dur à nettoyer, plus long.
So when thank you for going back over that. So there was a final buyout that you decided to leave, and but then you came back into the industry. So yes, so you left working with UGG. That was the last company you worked for. But that was your end of your career. What, tell us what happened.
OK. Premièrement, il faut que je revienne un petit peu à l'arrière parce que je l'ai dit auparavant que j'ai jamais eu bien ben la chance de monter à cause de l'automatisation et on est parti de 2000 employés à travers tous les élévateurs, on est tombé à 200. Alors, les 3 dernières années, j'ai travaillé pour Agricore United. J'ai eu la chance de devenir un inspecteur de maison. Vu que je ne pouvais plus nettoyer silos, en plus, j'étais tanné, j'étais écœuré, c'est encore plus, un mot encore mieux utilisé au Québec, à nettoyer l'élévateur, toujours le même ouvrage. Alors, j'ai eu la chance. Mes boss m'ont fait confiance, m'ont envoyé à la CGC l'hiver pour 6 semaines, pour 2 années consécutives, pour apprendre les grains et comment être un inspecteur de maison. Alors, j'ai eu la chance et je les remercie beaucoup pour ça, parce que j'ai eu la chance de travailler les 2 dernières années comme inspecteur de maison et faire d'autres emplois que je n'avais jamais fait auparavant. Alors oui, je suis parti. Vu que je parle français et anglais, puis il y avait besoin du monde à la CGC au Québec. Je suis parti de mon emploi ici, quand on s'est fait acheter en 2007 par SAS Wipro, qui est devenu maintenant Viterra. Je suis parti au Québec et je travaille depuis ce temps-là pour le gouvernement du Canada, pour la CGC.
So you did you feel that you were seeing a different side of things then when you switched over to the government inspection side? Was it a different milieu, a different attitude? Were there things that you brought with you from being in the trade that made
Non.
life easier or difficult for
En
you?
life, la vie est beaucoup, beaucoup plus facile juste rester dans un bureau à regarder le grain que d'être dans un élévateur à faire tous les emplois possibles qu'il y a là. Mais au point de vue challenge, je crois que être un inspecteur de maison, c'est le plus gros challenge que travailler au gouvernement. Au gouvernement, on trouve des petites erreurs, mais ce n'est pas nous autres les responsables. L'élévateur est responsable. Mais nous autres, on est un peu la police du grain. La CGC, c'est un peu la police du grain. On fait sûr que le grade est bien là. Alors, c'est du 1 RED, du Canadian Red Spring. Si c'est un RED qu'il faut mettre à bord du bateau, il faut que ce soit un RED et non du 2. Alors, il faut faire attention au fusarium, il faut faire attention au germain, il faut faire attention à ce qui est endommagé par le gel et le soleil. il faut faire attention au chauffé. Il y a plein de l'avoine. Les grains des grains de contraste ou les autres grains. Il y a plein de petites choses de même que nous autres, on fait sûr que l'élévateur ne dépasse pas. Mais au point de vue comparaison, si j'ai apporté quelque chose à la CGC, à part de mon caractère, non. Je pense que le reste, mais par contre, j'aurais pas été capable de faire ça, le travail que je fais à la CGC que je fais en ce moment si j'avais pas eu l'expertise des élévateurs avant. Pas aussi vite, en tout cas. Mais je crois que travailler pour un élévateur est plus demandant que travailler pour le gouvernement. Si ça répond à votre question.
Any difference in working in the grain trade in Québec versus Thunder Bay?
Honnêtement, je dirais que non. Je dirais qu'un élévateur à grains est toujours un élévateur à grains. Les employés sont à peu près pareils un peu partout. Il y en a qui travaillent mieux dans différents ports à cause de leurs conventions. Il y en a qui ont plus, je veux dire, il y en a qui ont plus de choses à cause de leurs conventions collectives, mais un employé d'un élévateur est toujours un employé de l'élévateur. Les grosses usines, comme les élévateurs, les usines de pâte et papier, les années 60, 70, même on peut remonter plus loin, mais je ne me tente pas, mais 60, 70, il y avait beaucoup de choses, ça fêtait beaucoup en travaillant. Maintenant, c'est devenu plutôt un domaine sévère à cause des accidents. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de sécurité, puis le monde ne boive plus dans un élévateur. Si ça boit encore, bien, ils sont dans le trouble. Moi, j'en ai pas vu dans les dernières années moi-même. Mais auparavant, oui, ça se produisait assez fréquemment. Mais ça reste toujours, c'est un élévateur à grains. Et maintenant, le monde avec qui je travaille à Québec pour dans le domaine du grain, bien, il y a des agronomes, il y a des biologistes, des chimistes qui sont prêts à se trouver dans quelque chose ailleurs. Alors, ils viennent pour le gouvernement. Mais c'est plus comme c'était avant que. C'est du monde brillant qui travaille. C'est du monde. Je dis pas que le monde avant n'était pas brillant, mais je veux dire, c'est le domaine du grain a changé un petit peu. Mais au point de vue élévateur, ça reste toujours un élévateur à grain. Alors, les employés partout, je suis certain partout au Canada ou ceux que je fais affaire avec les États-Unis, ils ont à peu près la même mentalité que nous autres. Ils veulent faire leur boulot le plus responsablement possible.
Would you ever want to go back to working in a grain elevator?
Oui, j'aimerais bien ça. Thunder Bay, peut-être pas, mais j'aimerais bien ça retourner dans le domaine du grain, oui, dans l'élévateur. Je crois que je suis fait pour marcher, pour bouger, et non rester assis dans le même bureau toute la journée. Alors, oui, j'aimerais bien ça, mais on va voir ce que l'avenir nous va me réserver.
Was there, did you work then, or how long did you work as an inspector within, like an in-house inspector?
J'ai travaillé 2 ans.
2 ans.
Ouais.
So you worked alongside or the CGC inspector.
Ouais. John,
what was the relationship like between the two, would you say?
Au départ, je crois que à cause de mon tempérament puis ma personnalité, je crois que le monde ne me faisait pas confiance. Il y a un mois, puis il ne travaillera plus là. Mais je les ai prouvés qu'ils étaient dans l'erreur. La personne qui m'a enseigné, c'était John Harris. Je crois qu'à travers tous les inspecteurs que j'ai vus, c'est un des meilleurs. Alors, j'ai été chanceux d'avoir John Harris comme moniteur, disons.
What was it about him that you thought was...
Sa connaissance. Il avait une très bonne connaissance. Il paniquait pas. C'est même un petit problème. Il panique pas. Naturellement, il va régler le problème. Et sans trop paniquer, sans trop s'énerver, sans trop... Puis aussi, pousser le grain à faire un mélange. T'sais, on fait beaucoup de... Un inspecteur de maison fait beaucoup de mélange de grains. Avec les grades ou pour la vente. Mais sur le côté du gouvernement, on ne fait pas ça. On n'est pas censé le savoir qu'ils font du mélange. En tout cas, il y a des choses que ça reste un peu strict à dire. Mais ce qu'il y en est, j'ai travaillé 2 ans avec John, mais j'ai travaillé un autre emploi que j'avais aux élévateurs, c'était. Je travaillais pour le nettoyer le grain. Alors, je savais un petit peu c'était quoi les bases du grain, puis c'est quoi qu'on enlevait dans le grain pour qu'il soit commercialement propre à vendre. Alors, j'avais déjà une petite idée de ce qui. Ben, une grosse idée, disons, de ce qu'il fallait que je fasse. Mais je dis que John Harris, il m'a beaucoup aidé. C'est à peu près tout. Je peux pas.
It's nice to have good mentors.
Oui, c'est très bien d'avoir des good moniteurs. Si j'avais pas eu lui, je ne sais pas si je serais devenu comme je suis en ce moment. Mais il m'a montré quand pousser et quand pas pousser pour le grain. Je sais que ça ne dit pas grand-chose, pousser, mais c'est compliqué un petit peu sans avoir de grain pour vous le montrer. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais pensez juste à, pour faire de l'argent, ben il faut couper des coins des fois. Il faut faire beaucoup de mélange, puis il faut essayer de passer du 3 pour du 1. Puis il y a des possibilités de le faire. Si tu as une base de 1, tu peux faire d'autres mélanges, puis tu peux t'en sortir. Les compagnies sont là pour survivre, alors sont là pour faire de l'argent, sont là pour. Si on veut avoir des bons salaires, mais il faut qu'ils fassent de l'argent aussi.
It's a balancing act, from what I understand, because they also say that protecting the income to the farmer, that if they can sell it for a certain high grade, then should not the farmer be the one who benefits from that?
Well,
how do you respond to
fermier,
that?
Le fermier, lui, il vend son grain avant que nous autres on le reçoive. Alors, j'ai aucune opinion là-dessus. Moi, ça c'est le. Il y a une loi au Canada, c'est le Canadian Wheat Board. Jusqu'à présent, ça existe. Alors, le Canadian Wheat Board, je m'excuse, mais je ne sais pas en français comment dire ça. Canadian Wheat Board. Il y avait le monopole sur le grain. Alors, les fermiers vendaient jusqu'au Canadian Wheat Board, puis eux autres, ils décident après ça de quel grade ils vont payer le fermier, en gardant leur propre grain et faire leur propre version. Mais je sais que la loi va changer prochainement et le Canadian Wheat Board n'existera plus. Alors,
any comment on that?
Ben, je dis que c'est bien. C'est pour répondre à votre question de tout à l'heure. C'est le fermier maintenant va pouvoir vendre à n'importe qui va lui payer son meilleur prix. Alors, je sais que la compagnie qui nous a acheté, Viterra, ben, ils vont être les plus gros. Alors, ils peuvent couper tout le monde. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ben ça, c'est au fermier de décider. Il va avoir plusieurs choix à vendre, plusieurs compagnies à vendre son grain maintenant, et non juste une place. Mais ce qu'il y en est, par exemple, à pousser pour l'argent, une compagnie est là pour faire de l'argent. Alors, mon but, quand j'étais un inspecteur de maison, c'était faire de l'argent. Je voulais être bon pour faire de l'argent pour la compagnie. Plus que la compagnie faisait de l'argent, bien, plus que c'était mieux pour moi. Et le reste des autres qui travaillaient avec, mais la plupart du monde ne voyait pas la même façon que moi. Disons qu'au point de vue responsabilité, les 2 dernières années me montrer à me servir de ma tête, pas juste mes bras, mais me servir de ma tête plus que d'autres choses. Puis ça, j'ai bien apprécié ça. Parce que c'est bien beau se lever le matin, faire 8 heures, 12 heures, 16 heures d'ouvrage. Mais prendre un balai, puis aller se promener dans l'élévateur, puis nettoyer tout. Mais servir de sa tête, c'est le fun aussi. J'ai eu la chance de faire au moins une 20aine d'emplois dans l'élévateur. Peut-être pas tout. Tu sais, je dirais, une année complète à chaque emploi, mais il y a des emplois que je n'aimais pas. J'aime pas rester trop assis longtemps. Il faut que je bouge. Alors, le nettoyer le silo, ça faisait mon caractère. Le nettoyage du grain, un petit peu moins. Mais être un inspecteur, par exemple, ça, j'ai bien aimé. Très, 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 très aimé ça.
When you look back on your career, What are you most proud of?
D'avoir resté ici à temps de bien. Travailler avec le monde ici. Je sais pas, vous me demandez une question, most proud of, plus fier. Particulièrement, j'en ai pas. Je dirais mes enfants. Mais au point de vue travail, je pense que je dirais inspecteur, les deux dernières années. Je dirais les deux dernières années, oui, je pense que j'ai donné du 100%. J'ai donné, oui, je pense que ce serait ça. Si pour répondre à votre question comme il faut, là, je pense que j'ai montré dans les deux dernières années que je perdais pas mon tempérament aussi facilement que travailler dans l'élévateur même. Je pense que je me suis habitué à travailler avec le monde qui travaillait au gouvernement. Je me suis habitué à travailler avec le monde autour de moi. Même mon moniteur, John Harris, n'était pas facile. Ils m'ont donné un mois. Puis j'ai travaillé un an et demi jusqu'à temps qu'on se fasse acheter. Alors, n'oubliez pas, je suis un comique un peu. J'essaie toujours de faire rire le monde. Quand tu travailles avec tes mains, tu n'as aucune responsabilité dans le sens que tu passes le balai, t'as pas de soucis. Mais quand tu travailles avec ta tête, il faut pas que tu fasses d'erreur parce qu'un déchargement coûte très cher. Hein. Si on met du grain qui n'est pas censé aller à bord, puis le gouvernement dit non, on ne veut pas le vendre de même, déchargez-le, il faut le décharger. Puis ça coûte cher. Alors il fallait montrer une différente facette de ma vie, alors de ma personnalité. Alors, il a fallu que je mature un petit peu plus, puis que je m'applique plus à faire ce boulot-là. Alors, pour répondre à votre question, ce que je suis le plus fier, je dirais mes deux dernières années avec la compagnie pour qui j'ai travaillé. Je pense que je les ai montrés et je me suis montré moi-même que j'étais capable de faire ce boulot-là. Puis ça m'a aidé aussi pour ce que je fais en ce moment pour le gouvernement.
There are some changes. There have been changes. There are some changes coming. Or at least some talks of changes coming to the Canadian Grain Commission. I don't know if it's fair to ask you what you think about those changes, since you're still employed, but...
Par la loi, la loi de confidentialité, je peux pas répondre à vos questions.
Yeah.
Je peux pas, je suis encore en emploi avec eux autres, puis c'est pas fini, puis je répondrai pas à ces questions-là.
No, that's fair enough. Yeah.
I'll plead the fifth.
We'll interview you but when you finally retire. No, John Harris, is he still around?
Oui. Il reste à temps de B aussi. Puis, si vous avez des questions à lui demander, ce serait une très bonne personne à demander. D'après moi, j'ai connu... premièrement, on était une des seuls élévateurs qui donnait la chance aux employés de devenir inspecteurs. La plupart, c'est les contremaîtres qui font ce job-là. Comme la nouvelle compagnie, Viterra, elle engage des contremaîtres pour devenir inspecteurs. Et non, c'est plus du monde de l'Union maintenant qui font ça. C'est du monde de l'extérieur qui engage, ou c'est des contremaîtres, ou peu importe. Alors, pour vous dire que nous autres, on était chanceux avec du monde comme Murdoch McKay ou Billy Green ou ces hauts placés-là qui nous ont donné la chance de faire ce boulot-là. Alors, on a eu toujours des bons inspecteurs, la compagnie pour qui j'ai travaillé. Premièrement, je pense que c'était la meilleure compagnie. Honnêtement, là, j'ai parlé à plusieurs personnes. Je pense qu'on avait les meilleurs. On était les meilleurs. Mais ça, je pense que tous les élévateurs vont dire la même chose, mais. Je sais pas, je trouve que Eddie Ryback, il reste en ville lui aussi, très bon inspecteur. Il a des bonnes histoires aussi. John Harris, très bon aussi. Il y a eu Larry Dribbett qui était bon. Il y a eu Augie Potek qui travaille encore, qui est très bon. Bruce Ferguson. Il y a eu plein de monde pour qui j'ai travaillé qui sont.
My dad was an inspector for CGC, so I have a certain fondness for that work. Unfortunately, I didn't know anything about what he did when I was young. I just didn't appreciate that he might have stories to tell.
And he must have.
Yeah.
He must have had some stories to tell, because the grain industry is kind of a. L'industrie du grain, c'est comme un monde à part. Hein.
But most people tell their really good stories after the tape is off.
Ah, yeah. je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal. Je pense que le monde n'a pas besoin de tout savoir de ce qui s'est passé. Et alors, ils diraient tout, c'est une injustice. On aurait mieux travaillé pour vous.
Yeah. Now, any questions I should have asked and didn't that you would like to comment?
Vous avez demandé des bonnes questions. Non, je crois que c'est bien fait. Je crois que c'est assez.
And you're going to look for those pictures that you think might be somewhere.
I don't think
they got tossed in one of your travels.
Je crois que j'en ai plus de photos. Mais pour faire des photos, je crois. Ça peut être facile à remonter, même de nos jours. Mm. On peut aller à l'élévateur puis amener une espèce de caméra et quelqu'un peut même descendre dans un silo puis en prendre soit par en haut, par en bas, avant de commencer à nettoyer. Et à un moment donné, prendre la fourche et faire un petit peu de poussière puis prendre une autre photo de même. Mais il y aura sûrement une façon de faire un diaporama ou quelque chose de bien. La seule chose, c'est qu'il faut vous parler à du monde qui sont dans le domaine en ce moment. Moi, je vais vous référer à une personne. Je vais vous la donner, puis ça va être vous allez la trouver, sa personne très sympathique, puis elle peut probablement vous aider.
If you ever, speaking to your friends, come across some of them who have photos and other memorabilia that they would like not to just head to the dump, be sure to let them know that, especially with photos, we can scan them and give them back to them, and yet we have them for history. So I think
about,
I will...
About l'équipement, les lunettes, les anciennes lunettes.
Oh, that most people, all they talk about is the grain shovels they had. So, yes, if there's things like that, that would be...
OK. Je vais regarder tout ça. Je vais demander à du monde. Puis,
I mean, they may not seem like much right now to people, but 100 years from now, when people are listening to your tape and wishing that I could speak French, then those things become that much more precious. The more we throw out, what's left becomes more precious.
Mais il y en a plein d'autres histoires, hein, madame. Mais comme je vous dis, on va essayer de garder ça un petit peu secret.
Okay, thank you.
You're
Merci
welcome.
Beaucoup, monsieur.
You're welcome.